VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 18 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Amnesty International authentifie deux vidéos sur la décapitation d'un gendarme camerounais par des séparatistes.
Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram exécute une sage-femme de la Croix-Rouge qu'il avait enlevée.
Au Togo, publication du chronogramme des élections prévues avant la fin de l'année.
En République centrafricaine, des militaires à la retraite protestent contre plusieurs années d'arriérés et de pension.
Ici à Washington, audience publique la semaine prochaine sur de vieilles accusations d'agression sexuelle contre un candidat à la Cour suprême des États-Unis.
Arrivée du président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang pour son troisième sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Cameroun, Amnesty International a authentifié deux vidéos montrant des séparatistes anglophones ayant décapité un gendarme camerounais. Et dans un communiqué mardi, l'ONG de défense des droits de l'homme a dénoncé l'escalade de la violence en zone anglophone. Dans une première vidéo, une personne s'identifie comme membre du groupe des séparatistes armés Ambazonia Liberation Forces, avant que la même vidéo ne montre la tête décapitée du gendarme, indique Amnesty International. Dans la deuxième vidéo, qui serait la suite de la première, on peut entendre une voix affirmant que les séparatistes ont pris le fusil du gendarme.
Horreur également au Nigeria voisin, une sage-femme enlevée il y a 6 mois au cours d'une attaque du groupe Boko Haram a été tuée par les djihadistes, a annoncé hier le Comité international de la Croix-Rouge. Pour davantage de détails, Nani Talani.
Saifoura Ousaini Ahmed Korsa, sage-femme, travaillait pour la Croix-Rouge. Elle avait été enlevée le 1er mars par des djihadistes de Boko Haram dans la ville de Ran, dans l'extrême nord-est du pays. Le CICR, qui condamne le meurtre tragique de l'agent humanitaire, demande à Boko Haram de libérer une autre sage-femme et une infirmière, toujours entre les mains du groupe. Nous sommes dévastés par l'assassinat de notre collègue Saifoura. Il n'y a aucune idéologie ou loi religieuse qui pourrait justifier un tel acte, a déclaré Éloi Fillon, directeur de la délégation du CICR à Abuja. Édouard Talon, coordinateur humanitaire pour les Nations Unies, dénonce cet acte lâche, haineux et détestable, rendant hommage à la jeune femme passionnée qui avait dédié sa vie aux autres. Les djihadistes pratiquent beaucoup d'enlèvements pour grossir leur rang ou marient de force les jeunes femmes kidnappées. Parfois, ils demandent des rançons pour financer leurs opérations ou essaient d'échanger leurs captifs contre des membres du groupe détenu par le gouvernement nigérian.
Au Togo, 3 scrutins sont prévus avant la fin de l'année. Un référendum, les locales et les législatives. Le chronogramme électoral a été porté à la connaissance des formations politiques par la CENI hier à Lomé lors d'une séance de partage d'informations. Correspondance de Kay Lawson.
D'après le chronogramme rendu public par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le référendum et les élections locales doivent se tenir le 16 décembre 2018. Par contre, les législatives se tiendront 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 décembre, tel que recommandé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En conformité avec la feuille de route de la CEDEAO, la CENI fait savoir qu'un recensement général est prévu pour établir un nouveau fichier électoral. Ce recensement se fera en 2 phases. La première, du 1er au 8 octobre, et la seconde, du 17 au 24 du même mois. Avec la date fixée pour les consultations référendaires, il est évident que les réformes ne passeront plus par le Parlement ni par consensus comme souhaité par les 2 facilitateurs de la crise togolaise. La coalition des 14 partis de l'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne reconnaît pas la CENI dans sa mouture actuelle. Elle demande sa recomposition et c'est entre autres raisons qui justifient la reprise des manifestations de rue annoncées par l'opposition togolaise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Mauritanie, le parti au pouvoir a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat. Il détient aussi la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes, a annoncé la commission électorale. Précision d'Éric Maniarakiza.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Val Ould Belal, a proclamé hier les résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales tenues samedi. À l'Assemblée nationale, l'Union pour la République, parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, a remporté la majorité absolue de 89 sièges sur 157 pourvus. L'opposition dite radicale a eu 29 sièges, dont 14 pour le parti islamiste Tewassul et 10 sièges à l'opposition dite modérée. Les 13 conseils régionaux vont en partie au pouvoir. La suppression du Sénat au profit de ces conseils régionaux a été adoptée après une révision constitutionnelle par référendum en août 2017. L'Union pour la République a aussi raflé la mise sur les 219 communes. Le président de la CENI a donc salué un vent de modernisme qui commence à souffler et l'émergence de choix politiques sur la base de critères rompant avec le conformisme de la société traditionnelle.
La Cour pénale internationale a confirmé lundi la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. La Chambre qui a condamné Jean-Pierre Bemba à 12 mois d'emprisonnement considère que cette peine a été purgée après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention. Le juge Bertram Schmitt a cependant réimposé une amende de 300 000 euros. Monsieur Bemba a été définitivement exclu par la Cour constitutionnelle de la présidence du 23 décembre en République démocratique du Congo.
À Bangui, en Centrafrique, plus de 200 militaires à la retraite ont manifesté hier pour exiger le paiement de plusieurs années d'arriérés de pensions et de primes. Le point avec Morgane Guériec.
Nous voulons le paiement de 4 ans de pension et de 2 ans de mesures d'accompagnement, a déclaré Michel Senemokomna, un ancien caporal-chef à la retraite. Munis de branches de palmiers, de pierres et de quelques morceaux de bois, les soldats retraités ont bloqué pendant un moment la circulation sur l'avenue qui longe l'Assemblée nationale. Par la suite, ils ont libéré la voie. Le ministère de la Défense avait appelé il y a une semaine son personnel retraité au calme et promis une sortie de crise avec l'aide de la mission de formation de l'Union européenne. La mission européenne aide le gouvernement à restructurer les forces armées et se charge d'examiner les dossiers des militaires à la retraite pour estimer le montant de leurs arriérés qui devront être payés par l'État centrafricain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la commission judiciaire du Sénat tiendra des audiences publiques lundi prochain pour entendre Brett Kavanaugh, le candidat du président Donald Trump pour la Cour suprême, et la femme qui a accusé le juge Kavanaugh d'agression sexuelle il y a 3 décennies quand ils étaient tous les deux au lycée. Les membres républicains de la commission voulaient dès jeudi voter pour soumettre sa nomination au Sénat tout entier, mais ils ont dû y renoncer après les demandes croissantes pour des audiences publiques, dont celle de républicains. Le président Trump a réaffirmé son soutien au juge Kavanaugh.
Toujours à Washington, le président Trump impose de nouveaux tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, poursuivant ainsi la guerre commerciale avec Pékin. Ces nouveaux tarifs commenceront la semaine prochaine et atteindront 25% à la fin de 2018. Ils pourraient entraîner des représailles de la part de la Chine, qui a dit vouloir certes de nouveaux pourparlers commerciaux avec Washington, mais a laissé entendre qu'elle ne participerait à aucune autre négociation si les États-Unis imposaient ces tarifs douaniers.
Dans le sud-est des États-Unis, de nombreuses régions restaient inondées lundi après le passage de l'ouragan Florence qui a fait au moins 31 morts et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Florence, désormais rétrogradée en dépression tropicale, devait dévier vers le nord-est, charriant de fortes pluies dans les terres déjà gorgées d'eau en Caroline du Nord, Caroline du Sud et dans l'ouest de la Virginie, selon les services météorologiques. La Virginie a émis une alerte aux tornades dans le centre de l'État.
Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une frappe aérienne israélienne après s'être approchés de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé de ce territoire. L'armée israélienne a confirmé la frappe et précisé dans un communiqué qu'elle avait été lancée après que des terroristes, c'est une citation, se sont approchés de manière suspecte de la barrière de sécurité dans le sud de la bande de Gaza et placé un objet près de la barrière. Lors d'une manifestation le long de la frontière lundi soir, au moins 26 Palestiniens avaient été blessés par des tirs israéliens, avait indiqué le ministère de la Santé.
Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé ce mardi à Pyongyang pour son troisième sommet avec Kim Jong-un. Il va tenter de raviver des discussions au point mort entre le Nord et Washington sur la dénucléarisation de la péninsule. Faire de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, organisera fin octobre prochain à Abidjan la conférence internationale sur le caoutchouc. Les participants débattront entre autres des maladies de l'EVEA, du prix d'achat aux petits planteurs en chute libre et des difficultés à écouler la production ivoirienne. La production mondiale de caoutchouc est passée en 3 ans de 9 millions à 13 millions de tonnes en 2017, alors que la demande n'a pas suivi. En Tunisie, 33 projets d'une valeur de 5,4 milliards d'euros seront examinés aujourd'hui à Tunis au Forum international sur les partenariats publics-privés. Un millier de participants, investisseurs industriels et financiers, dont 250 entreprises étrangères, y sont attendus. Ils devront juger de la pertinence de financer un port en eau profonde, une usine de dessalement, un pont entre l'île de Djerba et le continent, ou encore une cité gouvernementale à Tunis. Pour terminer, en Égypte, le ministre du Pétrole et des Mines a annoncé avoir signé un contrat d'exploration pétrolière et gazière en profondeur avec la Britannique Royal Dutch Shell et la compagnie malaisienne Petronas. Ces deux entreprises vont investir près $1 milliard pour le forage de 8 puits dans le delta du Nil occidental. Le second contrat, d'une valeur de $10 millions, a été signé entre l'entreprise publique et GPC avec Rocoper, Kuwait Energy et Dover Corporation pour le forage de 4 puits d'exploration dans le désert occidental.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Ligue des Champions reprend ses droits en Europe.
Et oui, le FC Barcelone qui affronte le PSV Eindhoven. Et puis 8 ans après son triomphe en 2010 sous les ordres de José Mourinho et 6 ans après sa dernière apparition, l'Inter Milan retrouve la compétition face à Tottenham. Pour l'occasion, les Anglais joueront sans leur défenseur Toby Alderweireld, Kieran Trippier ou encore Hugo Lloris, mais aussi Dele Alli et Moussa Sissoko. Bruges contre le Borussia Dortmund. Monaco aura la très lourde tâche de commencer son aventure européenne face à l'Atlético Madrid, vainqueur sortant de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe. L'avant-centre brésilien de Liverpool, Roberto Firmino, blessé à l'œil contre Tottenham en Première Ligue ce week-end, n'a pas participé à l'entraînement ouvert à la presse hier. Il est donc incertain pour la réception du Paris Saint-Germain pour cette première journée de la Ligue des Champions. Après 4 éliminations en quart de finale, Paris reste sur 2 sorties en 8e de finale. Les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé voudront donc montrer un beau visage cette saison sur le plan européen. Les autres rencontres ce mardi soir, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Naples, le Galatasaray face au Lokomotiv de Moscou et Schalke 04 contre le FC Porto.
Et demain, le triple tenant du titre, le Real Madrid, entre en lice.
Triple tenant de la Ligue des Champions, le Real Madrid est orphelin, vous le savez, de Zinedine Zidane et de sa machine à but, Cristiano Ronaldo. L'attaquant gallois, Gareth Bale, a estimé que le club était plus une équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin, dans des propos rapportés par le Daily Mail. En l'absence de Ronaldo, le Gallois, auteur d'un doublé contre Liverpool lors de la finale l'année dernière, a déjà marqué 3 fois et récolté 2 passes décisives en 4 journées de la Ligue à cette saison. On rappelle que le Real est désormais entraîné par l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui. Les autres rencontres mercredi, l'Ajax d'Amsterdam contre l'AEK Athènes, le Shakhtar Donetsk contre Hoffenheim, le Benfica face au Bayern Munich, Manchester City contre Lyon, l'AS Rome en déplacement chez le Real Madrid, le Victoria Plzeň contre le CSKA Moscou, les Young Boys de Berne contre le Manchester United et enfin la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en déplacement chez le FC Valence.
Les Jeux Olympiques d'hiver 2026.
Oui, la ville japonaise de Sapporo ne sera pas candidate pour ces Jeux d'hiver 2026. Et ce, en raison d'énormes dégâts provoqués par le récent séisme survenu sur l'île d'Hokkaido. Les Japonais préfèrent donc reporter leur candidature pour 2030. Il y a donc 4 villes sur la liste de départ, Calgary au Canada, Erzurum en Turquie, Stockholm en Suède et le trio italien Milan, Turin, Cortina d'Ampezzo. Ces villes ne déposeront officiellement leur candidature qu'en octobre prochain, lors d'une session du Comité international olympique réuni à Buenos Aires.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition sera en meeting le samedi 29 septembre prochain à Kinshasa. Initiative prise par 7 candidats à la présidence, invalidés ou non, qui militent pour la désignation d'un candidat commun qui fera face à celui de la coalition au pouvoir lors des élections du 23 décembre prochain. Sur place à Kinshasa, les états-majors de ces différents candidats de l'opposition à la présidence s'active, mais la population s'interroge sur la portée du message qui sera annoncé à 3 mois des élections. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opposition politique tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre 2018 selon le calendrier de la CENI. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux, provincial, national et présidentiel, et ne s'inscrit donc pas dans la logique du boycott des élections.
C'est Jean-Marc Kabunda Kabunda, le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, qui a lu le communiqué annonçant au nom des 7 leaders de l'opposition ce grand rassemblement du samedi 29 septembre 2018. Ces derniers disent ne pas s'inscrire dans la logique du boycott des élections mais veulent d'un processus crédible et inclusif et rappellent qu'ils ne participeront jamais à la tenue d'une parodie d'élection. Quelle sera la particularité de ce meeting? Maître Peter Kazadi, au cadre de l'UDPS, est le directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi.
Il sera question justement d'appeler les peuples à unir les efforts afin d'obtenir un processus électoral transparent, afin d'obtenir l'inclusivité du processus électoral, afin d'obtenir des élections transparentes. Les partis politiques concourent à la formation politique de leurs membres et c'est à travers des lieux comme des meetings que nous sommes appelés à sensibiliser, à faire passer nos messages. Et les messages ici, c'est ce que nous allons dire à la population pour qu'ensemble nous puissions faire face à cette tentative de confiscation du processus démocratique électorale dans notre pays.
Les états-majors de Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzitu et Moïse Katumbi travaillent en communion pour la réussite de cet événement. Jean-Baudouin Maillot est le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe.
Nous avons informé l'hôtel de ville. Il s'agit de l'information. Et l'hôtel de ville, à partir de cette information, va sécuriser la manifestation. Attendez, vous allez le jour de ce meeting apprécier s'il y a un message nouveau ou pas. On ne va pas prédire les choses maintenant. Soyez patients.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne s'est pas encore prononcé sur la tenue ou non de ce rassemblement de l'opposition, mais les Kinois que nous avons interrogés à ce sujet le jugent opportun. Certains s'interrogent toutefois sur le message que veulent passer les opposants à 3 mois des élections.
À partir du moment où les meetings ou les manifestations publiques sont garanties par la Constitution, ils sont fils du pays, ils sont interpolitiques dans le pays, ils ont le droit de manifester comme ils veulent, quand ils veulent, tout en se référant à la loi en la matière. Donc je ne vois aucun incident. Les ténors de l'opposition tiennent leur meeting le 29 de ce mois à Kinshasa.
Cela est vraiment opportun. Pourquoi? Parce que l'opposition doit communiquer à sa base pour que la population soit consciente du nouveau programme que l'opposition lance. Nous nous approchons déjà vers les élections et nous attendons ces meetings.
Je dirais oui et je dirais aussi non. Oui, parce que nous devons aussi écouter ce qu'ils doivent nous dire. C'est aussi des Congolais. Ils ont aussi besoin de donner leur point de vue pour que nous puissions aussi les voter. Je dirais aussi non parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui sera leur occupation dans ces meetings. S'ils pouvaient dire non aux élections, je pense que ça sera un peu compliqué. compliqué parce qu'il y aura des tensions.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Rwanda, le président Paul Kagame a accordé une grâce présidentielle à 2140 prisonniers. L'une des principales figures de l'opposition, Victor Ingabire, est sorti de prison samedi après 8 ans de détention. Eric Manirakiza s'est entretenu en exclusivité avec Victor Ingabire.
Oui, ça a été une grande surprise parce que je l'ai appris jeudi vers 23h à la radio. Et puis le lendemain matin, vers 6h30, le commissaire général m'a remis ma lettre de libération.
Quel est le sens que vous donnez à votre libération, surprise?
J'espère que c'est le début de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Parce que vous voyez, j'ai été libérée quelques semaines après que le Parti des Verts avait été agréé au sein du Parlement. Et vous savez, le Parti des Verts, c'est un parti qui a aussi rencontré beaucoup de difficultés. Alors si cette fois-ci, il a été accepté et quelques semaines après, le président Kagame m'accorde la grâce présidentielle. Donc je pense que c'est vraiment un bon signe qui montre bien qu'on est en train de s'acheminer vers l'ouverture de l'espace politique au Rwanda.
Quelle a été votre expérience pendant votre séjour entre les quatre murs?
Entre les quatre murs, l'expérience que j'ai essayé d'avoir de la patience, savoir écouter les autres et essayer de trouver une bonne entente entre vous. Vous voyez, ces 3 dernières années, c'est là où j'étais en prison avec les autres. Là, vous voyez, c'est le milieu où il y a les gens de différents niveaux, que ce soit intellectuel, que ce soit la manière de vivre, tout ça. Donc, c'est un endroit où il faut vraiment apprendre à vivre avec tout le monde, à écouter tout le monde.
Un moment aussi pour méditer sur votre combat politique?
Oui, bien sûr, c'est un bon moment aussi de prendre le recul et de voir comment améliorer la lutte. Et comment arriver à l'objectif de lutter pour l'ouverture de l'espace politique au Rwanda.
Est-ce qu'il y a d'autres prisonniers d'opinion comme vous qui ont été libérés?
Non, sauf Kizito, il n'y a pas d'autres. Donc Moucha Idi est toujours là, Mademoiselle Ouigara Diane est toujours là, Docteur Nitegeka est toujours là. Donc je pense que je vais essayer de contacter les autorités pour essayer de plaider la cause de mes compagnons de lutte. Vous savez aussi qu'il y a les membres de mon parti politique, dont mon vice-président, dont le secrétaire général du parti, sont là avec d'autres membres de mon parti. Donc, j'essayerai de faire comprendre au régime qu'emprisonner les gens de l'opposition, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Et puis, le gouvernement n'a aucun intérêt de garder ces gens dans la prison.
C'était l'opposante rwandaise Victoire Ingabire, jointe à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Opération nettoyage à Dakar, au Sénégal. Des bénévoles et des employés de l'Office national sénégalais de l'assainissement se mobilisent contre la pollution des plages. Une première action symbolique s'est déroulée sur une partie de la baie de Han. Arzouman Compaoré.
La baie de Han, sachets plastiques et ordures en tout genre ont envahi la plage, faisant d'elle l'une des plages les plus polluées du Sénégal. Une situation qui a poussé les habitants de la zone à réagir.
On va retrouver la baie dans son lustre d'antan, qui, comme tout le monde le savait, faisait partie des plus belles baies donc du monde. Mais malheureusement, du fait de l'homme, la pollution industrielle, on a vu la baie se dégrader des années durant.
Pour Maktar, comme pour l'armée de volontaires sortis pour nettoyer la plage de Han, il ne s'agit pas seulement de restaurer la belle image de jadis. Il y va aussi de la santé de la population. Maktar Ndiaye, résident de Han et membre de l'association Festiver.
Rien qu'à faire le tour des structures de santé ou des habitants, il est clair qu'il y a des maladies hydriques liées à l'eau, à la pollution de l'eau qui ont donc apparu au fil du temps.
La zone abrite 80% de l'activité industrielle du pays et les experts affirment que les effets sur leur santé sont alarmants. Beaucoup souffrent de difficultés respiratoires, d'allergies cutanées et de diarrhées. En 2009, l'Union européenne avait annoncé un prêt de 65 millions de dollars pour aider les autorités locales à assainir la baie. 9 ans plus tard, la situation n'a pas beaucoup changé. Les autorités locales ont donc été saisies à nouveau. Un accord de financement de 20 millions d'euros a été signé entre le gouvernement sénégalais et la coopération néerlandaise pour un important projet de nettoyage de la baie. Babacar Mbeng, maire de Anne Belair.
Si vous voyez du sable noir, vous voyez une plage noire, c'est la pollution industrielle en fait qui est importante. C'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue, il fallait mettre à contribution les entreprises, il fallait les associer à cela.
La réussite du programme d'assainissement de la baie nécessite aussi une participation active des habitants. Ousmane Dao, coordinateur national du plan de gestion des déchets solides.
Bon, je pense qu'il faut faire une grande activité de sensibilisation des populations pour leur montrer l'importance de l'environnement.
Selon les responsables, le projet de nettoyage devrait commencer d'ici la fin de l'année et durer entre 3 et 5 ans.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, le sud-est du pays est toujours sous la menace des inondations. Devant la montée des eaux, les secours et forces de l'ordre restent mobilisés pour venir en aide aux populations menacées. Pour un témoignage, Yakuba Ouedraogo a joint un habitant de la Corée de la Caroline du Nord, Moore Diop.
Venant de chez moi et en train de voir la route qui me mène directement au boulot, j'ai pu apercevoir quelques segments de route carrément inondés. Donc les gens sont obligés de faire des détours, ce qui va prendre quand même un peu de temps. Et plutôt l'instauration de l'électricité pour certains résidents qui n'ont pas l'électricité depuis presque vendredi. Et je pense que ça va poser quelques problèmes pour les équipes des compagnies d'électricité. Le centre-ville est inondé. Il y a des routes qu'il faut carrément éviter et c'est un peu difficile en ce moment, vraiment.
Est-ce que les gens arrivent à mener leurs activités?
J'ai pu voir certains commerces qui étaient carrément fermés. Bon, les supermarchés, il y en a qui sont un peu ouverts. Il y avait un peu de trafic quand même. Mais bon, là, on ne peut pas dire réellement si les gens vont à leurs activités ou pas. Mais toujours est-il qu'il y a des problèmes.
Les coupures d'électricité, c'est un peu partout dans la ville ou c'est une partie de la ville qui est affectée?
C'est une partie de la ville. Je dirais même en dehors de la ville. Parce que pour accéder à ces zones, je pense qu'à cause des inondations, ça va prendre du temps. Là, j'ai eu l'opportunité de parler à un ami qui m'a dit qu'il n'a pas encore l'électricité depuis vendredi. Donc, ça va prendre du temps parce que les équipes, d'après ce qu'ils ont dit, il ne faut pas accéder à ces zones.
Qu'est-ce que les autorités locales là-bas vous passent comme message?
Le message que j'ai pu entendre, c'est les messages de sécurité. En fait, il faut éviter de sortir, de conduire, parce qu'il y a trop de zones. D'après ce qu'ils ont dit, ils sont carrément inondés et ils veulent que les gens restent chez eux. Et sinon, pas vraiment une préoccupation majeure. Par exemple, sortir pour aller prendre quelque chose ou pas. S'ils n'ont vraiment pas besoin de ça, ils n'ont qu'à rester chez eux jusqu'à ce que les routes se dégagent et qu'ils puissent faire leur travail.
Est-ce qu'il est prévu qu'il y a encore des intempéries?
D'après la météo que j'ai pu écouter hier ou même regarder, d'après ce qu'ils ont dit, normalement, on doit avoir une période d'accalmie pour le reste de la semaine. Là, le soleil en fait est en train de sortir, mais bon, il y a quelques nuages quand même. Mais ils n'ont rien annoncé comme tempête. En fait, ils ont signalé quelques tornades isolées de part et d'autre, mais bon, on n'est pas sûr.
Jusque-là, on ne vous a pas dit exactement quand est-ce que tout cela va finir?
Les messages qu'ils ont eu à distribuer, c'est des messages de sécurité. Donc, ils ne peuvent pas dire carrément quand est-ce que ça va tout finir. Les écoles sont fermées jusqu'à mercredi. Il faut voir peut-être d'ici là, le week-end prochain, où on pourra voir quand même quelques améliorations. Mais là, en ce moment, je crois que c'est la prudence partout. Ne pas sortir, éviter les zones et laisser les équipes faire le travail.
Moore Diop était en ligne de la Caroline du Nord.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.